Toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain, nous sommes le vendredi.
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année. C'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
12 offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini, ce maillot
connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est l'heure du Canu Info du vendredi qui s'apprête à commencer. Ouais. Et aujourd'hui, on a plein de choses à vous raconter, à commencer par du coup une rubrique migration avec un retour sur le parcours d'un mineur isolé au col de l'Échelle. Et puis on vous parlera des squats à Lyon et du collège Maurice Sève.
Et ensuite, on vous donnera des nouvelles de la plaine à Marseille, où un mur enserre la plaine.
Et après, du côté du Paris, de Paris, on vous parlera de la grève au parc Yayat. Je vais y arriver. Yat Vendôme qui continue.
Et ensuite, on verra comment un référendum est en cours ce dimanche sur l'indépendance en Kanaky.
On enchaînera sur le Brésil, où un camarade est installé là-bas et nous fait un petit décryptage politique de ce qui se passe depuis l'élection de Bolsonaro.
Il y aurait quelques éléments complémentaires sur Bolsonaro, c'est un fil qui se passe difficilement. Et ensuite, ce sera le traditionnel agenda. Est-ce qu'on est parti pour ce soir ? Il est 19h03 ? Non.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border!
Moi, c'est Ibrahim, j'ai 17 ans et je suis ivoirien malien d'origine. Je suis arrivé en France il n'y a pas très longtemps de cela, juste quelques semaines. Je suis passé par Clavia et de Clavia à Briançon. Là, je suis venu direct ici à Lyon. Déjà, Clavia, c'est la frontière de la France et l'Italie. C'est une ville où il y a assez de montagnes, tu vois. Voilà. Quand nous sommes arrivés, on était une vingtaine de jeunes qui avons voulu rentrer en France. Des gens nous ont approchés et nous ont dit on peut aller se reposer d'abord dans une église. L'église, je crois, c'est une squat. Quand nous sommes arrivés à cette église, à cet endroit-là, nous étions tous fatigués parce qu'on avait passé près de 2 à 3 jours dehors, sans l'eau, sans ni rien. Et ils nous ont donné à manger. Moi, j'ai voulu me laver tout. Et tu vois, ils nous ont bien accueillis là-bas. Ils nous ont donné des informations à comment est-ce que traverser la frontière et nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire et tout. La dernière ville, avant de rentrer à Briançon, la police a voulu nous arrêter et du coup nous nous sommes dispersés. On a commencé à se cacher dans la brousse et du coup ils sont partis. Quand ils sont partis, on a repris le chemin. Ces gens qui essaient d'aider les migrants, c'est des gens bien. Moi, avec le groupe que j'étais avec eux, nous sommes perdus sur la montagne à plus de 3 reprises. Heureusement qu'on avait le numéro de l'un d'entre eux qui essayait de nous indiquer quoi faire. À chaque fois qu'on se perdait, on les fait appel. Parce que déjà, je n'ai jamais grimpé à une montagne et tout. Ce qu'ils nous ont expliqué, ça m'a donné beaucoup de force pour pouvoir rentrer à Briançon. Dès que nous sommes arrivés dans la ville de Briançon, on a vu la police qui arrivait. On a essayé de fuir. On s'est dispersé jusqu'à 6h, 7h, nous sommes allés à la gare du train. Et du coup, c'est là qu'on a pris le train et Lyon. Depuis que je suis à Lyon, je dors dehors. Parce que je suis allé à la forum et tout. Je n'ai pas été hébergé, ils m'ont donné le rendez-vous et ils m'ont dit qu'il faut que je me débrouille pour avoir un dortoir. Et du coup, moi, je suis parti au jardin. En ce moment, on dormait au jardin. On dormait sous des tentes. C'est là, les gens, ils nous ont aperçus là-bas et ils ont commencé à nous aider comme ils le peuvent. Bah, depuis, on n'est plus là-bas. Nous sommes à Lyon 4. On nous a indiqué un endroit, et un ancien collège qui est à l'abandon. Donc du coup, on a essayé d'habiter ici. Donc du coup, nous sommes là ici. Ça vaut près de 2 à 3 semaines.
Nous, on accompagne des mineurs isolés. Là, pour l'instant, il y en a une centaine. Collège Maurice Sèvres. Collège qu'on a ouvert il y a 2 semaines maintenant pour des jeunes mineurs isolés africains et des garçons qui dormaient depuis 3 semaines, 1 mois dans les pentes de la Provence. En fait, ils dormaient sur l'esplanade, dans le jardin de l'esplanade, dans des tentes. Nous, on les a rencontrés parce qu'on accompagnait des familles moldaves qui dormaient place Satonet et puis place Colbert. Et du coup, on a rallié un peu les accompagnements. Et en plus, ils étaient menacés d'expulsion par les flics sans solution de relogement ni d'hébergement. Et donc, du coup, nous, on a décidé d'ouvrir un lieu parce qu'on savait très bien qu'ils allaient se retrouver en périphérie sans solution. Donc, c'est un collège qui a fermé il y a 5 ans. Et qui est abandonné depuis. Et il y a 3 énormes bâtiments qui sont en très très bon état et qui peuvent loger à peu près 200 personnes. C'est en plein milieu de la Croix-Rousse, c'est assez tranquille, assez isolé. Et à la fois, on reste en ville. Et ça, pour les démarches, c'est super important pour que les assos viennent, pour que les gens du quartier puissent se mobiliser, quoi. Que sur les dons des gens, donc c'est la plupart du temps des gens qui sont venus apporter les matelas, les canapes, les draps, les oreillers, absolument tout. Et la bouffe, c'est pareil, quoi. On nous a ramené des cuisinières, des réchauds, bouteilles de gaz, machin. Et là, pour l'instant, le but, c'est vraiment de les accompagner dans la vie quotidienne pour qu'ils se rendent autonomes, quoi. Et, au début, il y avait des gens qui ramenaient des marmites pour 100 personnes. Là, le but, c'est que chacun fasse sa popote pour tout le monde et qu'on arrive à s'organiser pour partager aussi, faire une vie commune. On fait aussi des accompagnements juridiques, des accompagnements santé. Il y a des groupes de médecins, d'infirmières qui sont en train de s'organiser pour faire des passages. Il y a Médecins du Monde qui vient. On fait des trucs avec des avocats. Le but, c'est qu'on crée de l'inclusion et de l'accompagnement vers l'autonomie de ces jeunes. Donc on a un vrai projet derrière. On espère quand même qu'il va être entendu, surtout qu'on fait tout ce que la métropole fait pas. Donc quand même.
Donc quand même. la métropole qui ne fait absolument pas son boulot de protection des mineurs a par contre porté plainte contre l'occupation des locaux du collège Maurice Sève à la mi-octobre. Depuis, le tribunal administratif a rendu un verdict provisoire en rejetant la requête d'expulsion demandée par la métropole et son président David Kimsfeld. La trêve hivernale ayant commencé il y a quelques jours, les mineurs sont donc assurés de passer l'hiver sous un toit. Pour en savoir un peu plus sur les besoins des habitants, passez y faire un tour et ramenez de la nourriture, des meubles, des lits, des canapés. De même à Villeurbanne, l'amphi Z, qui abrite depuis un an de nombreux exilés, pourra rester lieu de refuge jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Pour autant, les habitantes et habitants ont eux aussi pas mal de besoins, notamment de coups de main et de matériel pour relancer la chaudière du bâtiment et entreprendre des travaux d'électricité. Vous trouverez la liste complète de ce que vous pouvez faire pour les soutenir sur Rébellion. L'article est en ce moment en manchette et donc facilement retrouvable. Si à Lyon, l'ouverture et le maintien de ces deux lieux pour cet hiver est une belle victoire face aux politiques scélérates des pouvoirs publics, qui en plus de militariser les frontières rendent la vie impossible aux exilés, ailleurs, ces mêmes autorités ont mené plusieurs offensives contre des amis. C'est d'abord il y a 15 jours l'expulsion du lieu chez Jésus dont on a parlé ici, lieu situé à Clavière et dont Ibrahim, dans l'entretien que vous venez d'entendre, parler. Expulsés une première fois, les camarades de chez Jésus ont été à nouveau expulsés alors qu'ils tenaient la place du village quelques jours plus tard. Depuis, alors que la neige est revenue autour du col de l'échelle, les exilés sont laissés à leur triste sort, sans soutien, sans lieu de repos et sans aide pour suivre cette route dangereuse. Et cette politique répressive, à l'encontre de celles et ceux qui aident les exilés passe aussi par des tribunaux, puisque jeudi prochain seront jugés à Gap 7 camarades qui le 22 avril dernier ont participé à une marche de protestation contre la présence de la milice néofasciste Génération Identitaire au col de l'échelle. Il et elle risquent 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende pour, je cite, « l'aide à l'entrée sur le territoire français d'étrangers en situation irrégulière, le tout en bande organisée ». Tous nos soutiens donc à ces personnes qui agissent en bande organisée pour lutter contre ces politiques innommables. Soutien aussi à celles et ceux qui continuent d'être enfermés, renvoyés, volés, passés à tabac, intimidés de mille manières, plus que jamais. Pas de frontières, pas de nation.
Et alors juste pour dire que effectivement le collège Maurice Sève du coup va être protégé par la trêve hivernale, et encore c'est pas si sûr parce que la loi déjà permet pas forcément ça en fait, en fonction de ce que le juge peut décider. Ils peuvent décider de pas faire appliquer la trêve hivernale dans le cas de par exemple de ce qu'ils appellent des mises en péril ou tout un autre cas. Et là maintenant bientôt avec la loi Elan qui du coup est bientôt signée, et le juge pourra décider tout simplement très facilement de pas faire appliquer la trêve hivernale à partir du moment où c'est des locaux à usage d'habitation. Donc peut-être pour le collège ça passera, mais pour plein d'autres codes ça passera pas, et du coup on va vraiment du coup au travers ces lois une criminalisation de la pauvreté, et du coup avec de plus en plus de personnes à la rue. Du coup ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui il y a à peu près 1200-1300 personnes qui appellent le 115 tous les jours et qui n'ont pas d'hébergement, qui n'ont pas de réponse, sachant qu'en plus le 115 ne réussit pas à répondre à tous les appels, et que le plan froid là prévoit que 800 places d'hébergement, donc du coup pas du tout suffisant déjà pour répondre aux besoins avant même que l'hiver ait commencé.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Ça n'a pas le droit de citer sur la plage Jean Jaurès comme ailleurs. D'ailleurs, nous ne faiblirons pas, nous ne plierons pas. La Soléam ainsi que toutes les institutions qui sont impliquées dans ce projet tiennent à ce que ce projet d'envergure qui vise uniquement à améliorer les conditions de vie et de circulation des riverains, des usagers et des Marseillais se déroule dans le respect, le calme et le bon sens citoyen. La solution qui a été retenue consiste à ériger une palissade sur une hauteur suffisante pour éviter les intrusions et d'une solidité également suffisante pour ne pas être trop facilement détériorée. C'est la solution optimale pour garantir l'apaisement nécessaire au démarrage de ce chantier.
Nous, on a envie d'une concertation, d'une expérimentation urbaine. Ils nous mettent des murs de 2,50 m de haut comme réponse, quoi. Donc, bon, ça parle bien quand même de leur vision du monde, quoi, de leur monde, quoi. C'est ça, ça va être la place bloquée avec des murs de 2,50 m de haut. Alors que c'est le plus grand espace public de Marseille, que c'est le cœur du quartier. Mais...
Vous ne craignez pas qu'au final, ces grandes barricades que vous allez mettre, ça va au contraire exacerber les tensions, dire ben, la seule réponse qu'on nous apporte, ben, c'est un mur de 2,50 m.
Ah, écoutez, quand on fait un rapport de force, ça tend à des réponses fortes. Construire un immeuble dans des champs de patates, c'est plus facile que de refaire un immeuble dans un centre-ville. Bon, donc si c'est pour nous, on préfère avoir un chantier normalement, un chantier normal. Sortons de l'émotionnel, retour au calme. Ce chantier, il va se faire. De toute façon, il se fera. Voilà, c'est pas la peine d'envoyer des jeunes en garde à vue, quoi, ou qu'il y ait des blessés. Ça pourrait être vos enfants, vos frères, vos sœurs. Alors, ils s'amusent, c'est rigolo. Moi-même, j'ai fait 68, hein. Bon, vous étiez peut-être pas tous nés, mais moi, 68, j'avais pas d'idéologie. On allait là parce qu'avec les filles, on allait dormir dans les lycées et tout. C'est la même chose qui se passe à la plaine. Oui, je vous le dis. Il y en a un qui est tombé de l'arbre parce qu'il a été dans un hamac à 2h du matin et plein de chichons. Voilà, il est tombé. Voilà, après, c'est vrai que ça me fait plaisir de voir un gars qui va à l'hôpital.
C'est presque incroyable de vous entendre parler. Vous avez pas peur d'hystériser le débat, justement, en tenant ce genre de propos? Parce que les opposants, d'accord, ils n'ont pas la même idéologie politique que vous, mais il y a aussi des arguments valables, et vous les essentialisez à des zadistes, des 68ards qui veulent coucher avec des filles, ou alors fumer des pétards. Est-ce que vous n'avez pas peur d'hystériser le débat là-dessus aussi? Parce que la réaction est aussi à la hauteur de vos propos.
À un moment donné, on ne va pas répondre 40 fois la même question. Il y a les chantiers qui se font. Sur le Vieux-Port, les gens n'étaient pas contents.
Du coup, on comprend mieux pourquoi le dialogue ne s'est pas noué pendant la concertation, parce qu'il y a aussi ce point de vue-là de dire bon, ben, nous, on est du côté de la loi et les autres, ils sont contre, quoi, grosso modo. Oui, il n'y a aucun dialogue, mais on comprend pourquoi, effectivement.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est le son d'une conférence de presse sur les travaux de rénovation de la plaine le 29 octobre. L'homme qui tient des propos littéralement surréalistes et annonce la construction du mur autour de la place, c'est Gérard Chenot. Gérard Chenot, c'est le président de la Soleam, la société parapublique marseillaise qui est chargée du réaménagement de la place Jean Jaurès, que tout le monde appelle la plaine, du nom du quartier de la plaine qui l'entoure et qui doit être totalement refaite, et notamment son marché doit partir. C'est des travaux pour 4 ans qui sont prévus. Alors, petit rappel chronologique de ce qui se passe à la plaine à Marseille. Alors, depuis 2015, un certain nombre d'habitants et d'usagers du quartier font entendre leur voix contre le projet de la Soleam, projet qui rime plus avec du nettoyage social qu'avec une remise en état de la place que la mairie laisse volontairement pourrir. Cette montée en gamme, je cite, sont les termes qu'utilisent la Soleam et la mairie du quartier. Eh bien, logiquement, elle déplaît à de nombreuses plénardes et de nombreuses plénards. C'est comme ça que les habitants de la plaine s'appellent entre eux. Certaines et certains de ces habitants se regroupent en assemblée. La mairie de Marseille ne l'entend pas de la même manière. Elle préfère l'opacité, la brutalité, comme on a pu l'entendre avec les propos de Gérard Chenot, qui est donc président de la Soleam et élu à l'agglomération et à la mairie de Marseille. Brutalité et gros pognon. Alors, la mairie et la Soleam, en fait, elles veulent en finir avec le marché populaire de la plaine, un marché dans lequel on trouve un peu de tout et qui vient beaucoup de partout dans le monde et à destination des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, et aussi virer les forains qui se réunissent en général sur la plaine pour faire advenir eh bien, un marché à touristes et à bourgeois en plein centre de la ville. Donc 300 forains ont d'ores et déjà été mis sur la paille avec le début des travaux et la fermeture de la place. Et puis il s'agit aussi, pour la mairie et la Soleam de couler économiquement les autres commerçants du quartier avec les mêmes méthodes. Promesses douteuses et petits coups de pression sur les commerces alentours, évidemment. Alors la multinationale LGE, hein, c'est une multinationale du béton, elle est contente parce qu'elle va s'en mettre plein les fouilles. En effet, elle s'est vue attribuer un gros tiers des travaux par la Soleam, donc par Gérard Cheneau que nous venons d'entendre. Et c'est l'occasion pour la NGE de se faire plaisir avec des techniques habituelles dans le BTP de réduction de coûts basées sur l'emploi d'ouvriers intérimaires et avec souvent des situations administratives difficiles. Et aussi un moment chouette, cet appui politique pour NGE de bourriner avec le tronçonnage des arbres dont certaines et certains d'entre vous ont peut-être vu des images. Donc le quartier, en tout cas une grande partie d'entre de ses habitants et habitantes est totalement dégoûtée. Les anciennes sèchent leurs larmes, la colère gronde. Donc il y a une manifestation et un harcèlement au quotidien des flics et des ouvriers, qui sont les méthodes qui sont imposées pour les personnes sur place, avec une grande résistance, résistance suffisamment efficace pour que le 16 octobre, la préfecture et la mairie aient décidé d'une pause dans les travaux de la place Jean Jaurès. Pause suivie d'une reprise, on va le voir, puisque après un appel largement relayé, plus de 3000 personnes manifestent joyeusement le samedi 20 octobre dans les rues de Marseille. C'est une démonstration de force des opposants du projet. Et le soir même, une cabane offerte par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été montée sur la plaine. Alors elle a ensuite été relativement vite démolie par la police, mais c'était un joli geste. Et donc il y a eu une trêve qui s'est installée pour quelques jours entre le 20 et le 26, avec quelques constructions sur la plaine et quelques potagers autogérés qui ont fleuri. Mais évidemment, la Soleam et la mairie ne l'entendent pas de la même manière. Et avec l'appui de la préfecture, c'est le mardi 26 à 4h du matin que 150 flics sont venus reprendre la place pour assurer la destruction de la cabane installée 3 jours avant. Et quand tout à l'heure, on entendait M. Cheneau dire qu'un jeune était tombé parce qu'il avait trop fumé, il est plutôt tombé d'un arbre parce que des policiers sont venus le déloger. Voilà comment ça s'est plutôt passé. Et donc le 26, c'était mardi dernier. Et le 29 octobre après-midi, il y a eu une nouvelle offensive de la Soleam qui a décidé, on l'a entendu dans l'extrait qu'on vient de diffuser, la construction d'un mur de béton. C'est assez impressionnant, je vous encourage à aller voir les images, de 2,50 m de haut pour, dit la Soleam, sécuriser la place, sécuriser les travaux. Alors, il y a une résistance, mais les Marseillais et les Marseillais ne sont pas très résistants à la pluie et encore moins au CRS et ont dû plier. Et oui, parce qu'il y a une énorme pluie, c'est comme les informations des camarades marseillais qui précisent ça dans leur communiqué. Depuis, la Soleam a annoncé que des artistes seraient payés pour repeindre le mur qui fait quand même bien tâche. Hein, les Marseillais et Marseillaises ont déjà baptisé mur de la honte. Alors, cette technique d'envoyer des artistes maquiller les méfaits des politiciens et de leurs alliés est quand même malgré tout fort habituel. Hein, le faux tag et l'esthétique du squat pour faire du pognon, ça marche toujours plutôt pas mal. Et puis donc, tout ça s'est passé très récemment. Le mur, il a été construit. Et on va vous faire écouter tout de suite une lettre qui a été écrite et enregistrée le 30 octobre, pardon, puisque les militants et les militantes marseillaises ont décidé, notamment comme moyen de communication, de diffuser des lettres sonores qui s'appellent les lettres de la plaine. Et cette lettre-là, elle est destinée évidemment à Gérard Cheneau.
30 octobre. Cher Gérard, on voulait t'écrire un petit mot, juste pour te dire que ton mur de béton, ce mur que tu fais installer tout autour de la place avec l'aide de tes amis les policiers, ce mur, Gérard, il va tomber. Tu sais, Gérard, les histoires, il faut les lire jusqu'au bout. À ton âge, c'est peut-être difficile, mais tu devrais. À la fin, les murs, ils tombent. Dis, combien d'argent tu es prêt à perdre pour construire ta place ? 390 000 euros pour couper des arbres en catimini, c'est pas rien. Tu dois avoir un sacré problème. En tout cas, tu as besoin de nous cacher des choses. Hier, par exemple, tu nous as caché que c'était ton anniversaire. 70 ans. Peut-être as-tu senti la vie courte d'un coup, que le temps allait te manquer ? Tu sais, on préfère te le dire tout de suite. Oui, le temps va te manquer. Cette place, Gérard, cette place que tu veux, toi, pour tes amis, tu ne la verras jamais. C'est comme ça. En tout cas, ce mur, c'est un bel atout pour attirer les touristes. Tu sais y faire. Ça va donner de jolies photos à ramener à la maison. Pour la com, tu peux compter sur nous. On va t'aider. On a déjà commencé. On est impatient aussi de connaître le nom des artistes que tu as invités pour décorer ton mur. Et décidément, tu as vraiment besoin de cacher ce que tu fais. Cacher ton chantier, cacher le mur. As-tu songé à cacher tes amis, les policiers ? On te propose de diffuser de la musique la prochaine fois que tu sortiras les tronçonneuses. Tu vois, Gérard, depuis le début, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de caché dans ton projet. Tu devrais assumer quand même, montrer l'exemple. C'était pas très glorieux hier, ta conférence avec ton ami Olivier de la préfecture. On avait l'impression que tu étais un peu honteux de nous annoncer ton mur. On peut comprendre. Se dévoiler comme ça, être obligé d'avouer qu'il y a une vraie résistance à ton chantier, annoncer publiquement que tu vas faire un chantier planqué, ça a dû te faire tout drôle. Ne t'inquiète pas. On va tout faire pour alléger le dispositif, Gérard. On a bien vu que tu n'étais pas tranquille. Tu sais, ton mur, on l'a déjà vu, à Bure. On l'a vu tomber. Là-bas, ils chantent des chansons aussi. Il y en avait une pour Gérard, ton ami qui était au ministère de l'Intérieur. On va la chanter pour toi. Gérard Chenot, c'est dégueulasse. Gérard Chenot, c'est dégueulasse. Gérard Chenot, c'est dégueulasse. La 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 la. Gérard, ton mur, tu vas te le prendre. Tu fonces dedans.
Et oui, Gérard fonce dans le mur. Le Gérard qui est revenu à Lyon est toujours aussi dégueulasse. En tout cas, les informations autour de la plaine, elles sont notamment à suivre sur le site qui danse le MIA, MIA Marseille Info Autonome, mars.info.org. Et par ailleurs, pour les enregistrements, on remercie d'un côté les camarades de Primitivi pour la conférence de presse de Gérard Chenot et puis le site La Vie Manifeste pour cette lettre à Gérard.
Eh ben oui, mais du coup, finalement, on peut quand même parler d'autres luttes qui marchent un petit peu, mais qui marchent même carrément, c'est les grévistes du parc Hayat Vendôme, qui sont en grève depuis plus de un mois et des brouettes, où on en a déjà parlé la semaine dernière, on avait parlé du coup de la répression à la fois policière et patronale qui s'attaquait à cette grève, et on aurait pu penser que les grévistes auraient pu abandonner, et ben pas du tout. Au contraire, ça les a mises en colère, et ça leur a donné en fait du coup au contraire de la motivation pour se rassembler, pour aller jusqu'au bout ensemble du coup face à ce mépris de la direction, et même elle commence à penser que la répression prouve le fait qu'au contraire elle dérange la direction, parce qu'en effet du coup c'était vraiment l'objectif de les intimider, de leur signifier qu'ils n'ont pas le droit de manifester et de dénoncer en fait leurs conditions de travail, mais les grévistes sont d'autant plus nombreux et nombreuses et d'autant plus nombreux surtout sur les piquets de grève pour faire face justement à ces attaques, parce que du coup leurs piquets de grève durent tous les jours de 10h à 17h depuis plus d'un mois, et là, il y a vraiment une détermination assez forte où du coup, les grévistes pensent que si ils abandonnent maintenant, ils auraient tout perdu. Alors qu'au contraire, ils vont continuer jusqu'au bout pour pouvoir revenir la tête haute. Et notamment parce que Hayat va bien être obligé de les écouter. Et du coup, ils ont fait une manifestation mercredi dernier, donc le 31 octobre, qui partait du coup du parc Hayat pour aller jusqu'à un autre Hayat qui est lui à Roissy. Cette manif du coup a regroupé à peu près 200 personnes. Donc on leur souhaite encore bonne chance dans leur lutte. On se rappelle les grèves d'Honnête et de... de où ? bon, au moins d'Honnête l'année dernière, qui a été victorieuse exactement dans le même secteur. Et on vous en donnera plus de nouvelles dès qu'on en saura plus.
Et pour continuer dans la rubrique nationale, on va vous parler d'une association qui s'appelle le Génépi et qui est interdite d'entrer dans les prisons. Or, c'est ce qu'elle fait, rentrer dans les prisons normalement pour proposer des activités éducatives et culturelles. Or, le 20 septembre 2018, il y a la direction de l'administration pénitentiaire qui a mis fin de manière brutale à son partenariat avec cet asso. Donc, suite à cette décision, il y a des bénévoles qui se sont déjà vus refuser l'accès à plusieurs établissements pénitentiaires un peu partout en France. Le Génépi réclame le renouvellement de sa convention et réaffirme l'indépendance de l'association. Donc du coup, ils bossent depuis 1976 dans des prisons et du coup, ils étaient liés en fait avec la direction de l'administration pénitentiaire par une convention qui régissait le cadre du partenariat national grâce auquel il y avait 2000 personnes incarcérées qui ont bénéficié chaque année d'activités scolaires et socioculturelles par 900 bénévoles de l'asso. Dans son communiqué de presse, le Génépi explique que cette convention est essentielle pour cadrer et homogénéiser les actions en détention du Génépi sur tout le territoire et pour assurer la formation des bénévoles nécessaires à la qualité de ces actions. Ce communiqué, il explique aussi qu'après plusieurs mois d'absence de dialogue, cette convention a été unilatéralement rompue, du coup ce fameux 20 septembre, et cette décision remet en cause la capacité du Génépi à poursuivre ses activités et menace la raison d'être de l'association. Or, elle avait déjà été attaquée, cet assaut, par des baisses de subventions assez radicales au printemps et puis là encore récemment. Et du coup, le fond du désaccord repose surtout sur les prises de position prises par les groupes du Génépi pour dénoncer les conditions de vie indignes des personnes incarcérées. Donc du coup, en fait, en rentrant dans les prisons, ces personnes sont témoins de, des violences et puis aussi peuvent mettre en valeur et mettre en lumière et fondre des statistiques sur les suicides qui ont lieu en prison. Le Génépi, du coup, revendique sa liberté de parole et son droit de témoignage tel que c'est inscrit dans ses statuts. Depuis la suspension de la convention nationale, les bénévoles y voient leurs actions déjà annulées par l'administration pénitentiaire dans plusieurs endroits et aussi des interventions en détention qui sont suspendues dans plusieurs régions. Du coup, le président du Génépi, qui s'appelle Maxime Boyer, dit ceci, je cite, « La décision de la direction de l'administration pénitentiaire revient à nous fermer les portes des prisons malgré la volonté des bénévoles de poursuivre leurs actions auprès des personnes détenues. Nous souhaitons maintenir ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, si nécessaire pour leur futur retour à la société. Ces actions sont d'autant plus primordiales que l'administration pénitentiaire n'est pas en mesure d'assurer le nombre d'heures d'activité aux prisons auxquelles elle est légalement tenue. » Et du coup, dans le contexte de surpopulation carcérale record et de durcissement des conditions de vie des personnes détenues, qui a valu à 37 prisons de France une condamnation par la justice française et ou européenne, les bénévoles du Génépi doivent pouvoir continuer à intervenir en détention et aussi à témoigner de leurs expériences. Donc ce qui fait particulièrement flipper avec cette décision, c'est non seulement qu'il y a des détenus qui vont être privés du coup des actions éducatives auxquelles ils avaient, dont ils bénéficiaient, mais surtout, ce qui fait très peur, c'est que cette décision, elle prend vraiment des allures de sanctions politiques qui visent uniquement à faire taire toutes celles et ceux qui dénoncent le caractère mortifère des prisons aujourd'hui en France. Et quand on voit que rien qu'à Fleury-Mérogis, il y a eu 15 morts en 9 mois ces derniers temps, on ne peut que s'inquiéter de cette volonté de limiter tous les témoins à l'intérieur des prisons.
Et ben voilà, et on va aller maintenant du côté de la Nouvelle-Calédonie, puisque ce dimanche 4 novembre aura lieu le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Alors il faut savoir qu'étant donné qu'il n'y a jamais eu de telle consultation pour approuver ou non la souveraineté française, certains refusent le principe même d'un tel référendum. C'est le cas notamment du MGRK, le mouvement des groupes révolutionnaires coutumiers kanak, dont on va vous lire des bouts de communiqués de presse. L'indépendance de la Kanaky ne se jouera pas le 4 novembre après la consultation référendaire organisée par l'État colonial. Le vote est une hérésie aux droits des peuples indigènes. Après les massacres, l'évangélisation, le viol de la terre pour en extraire le nickel et une politique de colonisation par le peuplement, l'État français, vêtu de son costume de modernité, poursuit ses attaques. Le peuple kanak se défend, résiste et s'organise. La Nouvelle-Calédonie, colonie française, terre occupée depuis 165 ans, sera soumise donc le 4 novembre à une consultation référendaire. Souhaite-t-elle ou non sa pleine souveraineté, en d'autres mots son indépendance? Après une politique de peuplement qui a rendu le peuple kanak minoritaire, la farce du jeu des urnes est ici sans complexe.
En rentrant dans la politique institutionnelle des accords de Matignon dans les années 90, les mouvements d'émancipation du peuple kanak ont dû en accepter les règles. Partis politiques, syndicats, loi 1901, Sénat coutumier, développement industriel. Le MGRK refuse le système centralisé multiparti, car il vit de sa substance vitale des peuples kanak, qui, comme pour l'ensemble des peuples premiers océaniens, puisait jusqu'ici sa force dans la coutume. La coutume représente l'esprit kanak, sa forme d'organisation et sa vision du monde, horizontale, verticale, communautaire, spirituelle et liée à la terre. La coutume organise le monde océanien depuis la nuit des temps. C'est cette forme de vie que les contestataires coutumiers indépendantistes entendent remettre sur pied et ils proposent une sortie pure et simple des institutions françaises. Ces dernières semaines, des actions sont menées sur la Grande Terre. Des marches, des blocages, dont celui du luxueux hôtel Sheraton ou de la mine de Thiébaghi, principale mine de la SLN, qui est la société Le Nickel, où l'on peut sentir qu'en marge de la politique institutionnelle, des paroles et des gestes veulent se faire entendre et signifier. Aujourd'hui, le MRGK tente de rassembler les différentes forces coutumières à travers le pays et s'est doté de l'appui diplomatique du Vanuatu et des pays non alignés pour déposer une déclaration d'indépendance à l'ONU. Le Vanuatu soutient son pays frère de Mélanésie, ayant lui-même accédé à son indépendance en 1980 par la voie coutumière en refusant un référendum. À l'époque, Walter Lini, premier ministre vanuatais, disait « Je ne considère pas le Vanuatu comme réellement indépendant tant que la Calédonie ne sera pas elle-même indépendante. » À quelques jours du 4 novembre, le MGRK appelle à son tour à une non-participation au vote et à l'accession directe à l'indépendance par la reconnaissance d'un État coutumier kanak. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce référendum, vous pouvez aussi aller sur le site de Survie, qui est une association qui dénonce la politique coloniale de la France et qui fait un énorme travail de documentation sur les pressions qui ont pu avoir lieu autour de ce référendum, notamment pour qui est-ce qui peut s'inscrire sur les listes électorales, sur comment est-ce que la question elle est posée, sur qu'est-ce que va signifier ce référendum. Donc vous pouvez aller sur ce site-là. L'association Survie, elle, voit le référendum comme une étape du processus de décolonisation suite aux accords de Matignon en 88, puis de Nouméa en 98. Bien que le référendum ne marquera pas forcément la fin du processus, car en cas de non, il y aura deux autres référendums qui peuvent avoir lieu dans deux années d'intervalle. Si l'association Survie, par exemple, ne se prononce pas sur l'indépendance, elle est extrêmement vigilante face aux manipulations de l'État français et alerte sur les risques d'une néocolonisation similaire à la France-Afrique. Dans tous les cas, quel que soit le résultat du vote de dimanche, la tutelle française doit prendre fin et les positions indépendantistes doivent être entendues.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Seremos resistencia. Ninguém solta a mão de ninguém. Personne ne lâche la main de personne, nous serons la résistance. En réponse à l'élection du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro, ce dimanche 28 octobre, ces petites phrases ont envahi les réseaux sociaux brésiliens. Trois décennies après la fin d'une dictature militaire qui dura près de 20 ans, les urnes brésiliennes ont fait le choix à 55% d'élire cet ex-capitaine, nostalgique de la dictature, populiste, ultra-libéral et haineux. Haineux envers tous les opprimés, les noirs, les femmes, les LGBT, les populations indigènes, les paysans sans terre, les travailleurs. La liste est longue.
Si o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia.
Depuis 2012 environ, le Brésil est un pays en crise. En crise économique, en crise sociale et en crise politique. Dans les années 2000, sous l'égide de Lula, l'économie brésilienne affiche une forte croissance et parvient à faire reculer la pauvreté, tout en ne contrariant pas le grand capital. Cette illusion économique du gagnant-gagnant, basée en partie sur l'endettement individuel et de fortes entrées de capitaux extérieurs, s'effondre à partir de 2012. Le pays entre en récession, les inégalités entre riches et pauvres, déjà parmi les plus élevées au monde, elles connaissent une forte croissance. En 2017, 6 milliardaires détenaient plus de ressources que les 100 millions de Brésiliens les plus pauvres. La violence s'accroît et atteint un niveau alarmant. En 2017, 63 000 homicides ont été recensés. Toutes les 23 secondes, un jeune noir est assassiné. Plus de 1100 féminicides sont à déplorer.
Si o mundo ficar pesado... passado. Eu vou pedir emprestado a palavra poesia.
Sur l'aspect politique, les cinq dernières années ont été marquées par des scandales de corruption du côté du Parti des Travailleurs, qui a dirigé le pays de 2003 à 2016. Aidé par ses affaires, par la situation économique et sociale tragique, et par des médias puissants à la botte du capital, la droite modérée a su profiter du mécontentement et parvient à destituer Dilma Rousseff avant la fin de son mandat en 2016 dans des manœuvres judiciaires douteuses. Elle a ensuite gouverné durant 2 ans et sans jamais avoir été élue. Les attaques contre les travailleurs ont été brutales. En 2017, Lula est condamné à 12 ans de prison et empêché de briguer un troisième mandat pour lequel il était annoncé favori. Pour les militants et les opprimés, la dernière période a également été particulièrement sombre. L'ONG Global Witness a annoncé sur 2017 plus de 60 assassinats en toute impunité de paysans ou de militants pour les droits des paysans, soit plus d'un par semaine. En mars dernier, Marielle Franco, militante afro, féministe, lesbienne, antiraciste, proche du PSOL, est assassinée en pleine rue. 7 mois plus tard, aucune nouvelle de l'enquête. Et il y a un mois, des élus du parti de Bolsonaro se prenaient fièrement en photo, détruisant une plaque lui rendant hommage. Autre symbole, le 10 octobre, Mestre Mao de Katende, compositeur noir de Capoeira, dans la région de Bahia, est connu pour ses engagements antiracistes, est assassiné par un électeur de Bolsonaro. Les minorités doivent se plier à la majorité, lançait Jair Bolsonaro pendant sa campagne. Chaque catégorie d'opprimés en effet eu le droit à son lot de menaces et d'attaques de la part du nauséabond nouveau président. Aux parents qui trouvent leur fils un peu gay, il conseille de les frapper avec du cuir, et affirme sans hésiter que lui-même frappera 2 hommes qui s'embrassent à sa vue. Il promet de purifier le pays des ONG. Aux marginaux rouges, il promet l'exil ou la prison. Ce nostalgique assumé de la dictature ne réserve pas meilleur sort aux pauvres. Il déclare ainsi « Si un policier tue 10, 20 ou 30 personnes, il ne doit pas être puni, mais décoré. » Cette élection sera également un feu vert à l'exploitation encore plus sauvage de la forêt amazonienne, Bolsonaro étant évidemment climato-sceptique. Elle marque également la probable extradition de César Battisti, réfugié au Brésil depuis 1993, vers l'Italie. Sans surprise, les plus sales éléments de ce monde ont accueilli avec ferveur la nouvelle. La bourse brésilienne est en hausse. Trump, Le Pen et Salvini se réjouissent et félicitent leurs collègues. L'Élysée, dans un grand moment de courage politique, affirme lui vouloir poursuivre son partenariat avec le Brésil dans le respect des règles démocratiques. Si la situation est extrêmement préoccupante et que l'avenir proche s'annonce sombre, il faut malgré tout rappeler que 91 millions des 147 millions d'électeurs n'ont pas voté pour Bolsonaro et qu'il y a eu une forte abstention. L'appui de l'Église évangélique aux candidats ainsi que les fake news sont aussi les causes de ce résultat. L'entre-deux-tours a vu naître des mouvements comme le hashtag féministe #ElNoun, lui non, se répandre à très large échelle dans le pays et dans toute l'Amérique du Sud. À l'université de São Paulo, où le drapeau antifasciste a flotté dans l'entre-deux-tours, ce lundi, un rassemblement de 20 étudiants pro-Bolsonaro a fait face à un contre-rassemblement de 1000 personnes. Tout le mouvement social est d'accord pour entrer en résistance. Le mouvement des paysans sans terre, à qui Bolsonaro a souhaité la mort, a dans un communiqué résumé la situation. Que les combats de Marielle et la résistance de Maître Moa nous inspirent, que la violence contre les familles sans terre nous indigne, que la force que nous avons trouvée pour éteindre les incendies contre nous, allumée au cri de vive Bolsonaro, nous fasse continuer la lutte, que notre culture guerrière indigène, noire et sud-américaine nous mette en mouvement permanent. Nous ne progresserons que dans le courage et l'audace, seule la lutte paye.
Et ouais, bah, on fait quoi maintenant? Je peux parler, oui. Alors oui, on me censure, mais justement, on me censure, qu'est-ce qui se passe au Brésil? Eh ben oui, la censure, elle existait avant Bolsonaro, en vrai. En vrai, de vrai, ce qui se passe, c'est que seule la lutte paye, c'est vrai, mais du coup, le PT avait un petit peu oublié la lutte, et c'est peut-être un petit peu pour ça que cette situation arrive à ce moment-là, quoi. Peut-être qu'à un moment donné, si le PT avait continué à faire partie du mouvement social, avait continué à faire partie des forces progressistes et des forces force qui du coup allait vers un mieux-être au sein du Brésil, et bah peut-être que ça serait pas arrivé ça finalement aussi. Et du coup bah c'est un petit peu pour ça que je voulais parler aussi et mettre des petits points à propos de ce qui se passe au Brésil aujourd'hui. C'est déjà en fait que la répression, que cette espèce de climat délétère il existait avant l'élection de dimanche dernier, et que bah par exemple dès jeudi en fait 25 octobre, donc pas jeudi, celui d'avant finalement, et ben la police avait déjà, à la demande des tribunaux électoraux, investi 27 universités que du coup qui étaient en lutte contre Bolsonaro, et du coup qui avaient saisi du support. En fait, il était à la recherche de matériel de propagande électorale supposé donc illégal. Du coup, ce qu'il faut pour savoir à peu près ce que c'était que ce matériel de propagande, donc déjà à Rio, en fait, il y a une banderole qui a été enlevée et qui a été fait enlever du coup par la police au sein de l'université, sur lequel il y avait juste écrit un symbole antifasciste et marqué droit UFF, du coup, c'est le nom de l'université, quoi, antifasciste, donc vraiment pas du tout quelque chose de complètement fou. De même, dans l'état de Rio, en fait, des agents électoraux ont retirer une banderole en hommage à Marielle Franco. Donc Marielle Franco, c'était une élue municipale en fait du parti de gauche PSOL, qui avait été assassinée en pleine rue en mars dernier. Du coup, c'était une élue toute féministe et en faveur des droits des personnes racisées au sein du Brésil, qui a été assassinée justement plutôt par des personnes, on suppose, d'extrême droite ou proches du pouvoir. De même, dans une université du Pará, il y a 4 policiers militaires qui sont entrés sur le campus pour interroger un professeur sur son idéologie, en fait, son idéologie, c'était quoi? C'est juste que l'enseignant avait abordé, donc dans un cours sur les médias numériques, la question des fake news. Du coup, bah, c'est vraiment, du coup, cette histoire de fake news, c'est un truc qui a été un petit peu central au sein de la campagne brésilienne, où il y a un certain nombre de fake news qui ont été répandus par le candidat du coup Bolsonaro d'extrême droite et qui ont permis l'élection de celui-ci, notamment donc un petit peu ce qu'on a pu retrouver du coup pendant l'élection de Trump, et du coup bah, cet enseignant avait juste parlé de la question des fake news, et du coup il a été interrogé par 4 policiers militaires, donc vraiment pas n'importe quoi non plus, quoi. Et de même, du coup, dans le Paraíba, il y a des agents du tribunal électoral qui sont venus, qui sont introduits dans l'université pour retirer une banderole où il était écrit attention, gros message révolutionnaire, moins d'armes, plus de livres. Donc cette banderole, voilà. Et donc ça, c'est du matériel de propagande illégale, en fait. Donc du coup, c'est vraiment un climat qui existait avant, en fait. Et du coup, c'était déjà un petit peu la merde au sein du Brésil avant l'élection. Et il y avait effectivement, du coup, un climat qui existe depuis longtemps et qui pousse, en fait, à l'élection actuelle de Bolsonaro. Mais du coup, qui pouvait aussi trouver sa source, en fait, dans, la démission du PT, mais aussi le fait que le PT se soit retiré du mouvement révolutionnaire et social. Ça a permis du coup au président actuel du Brésil de arriver au pouvoir, mais aussi de pouvoir actuellement proférer des menaces complètement folles, où il vient dire à ses opposants, à ses opposantes, qu'ils ont soit ils partent en exil, soit ils iront en prison, et qu'il allait balayer en fait tous les bandits rouges du Brésil, et que vraiment en fait du coup il annonce vraiment ce qu'on pourrait appeler le retour de la dictature, et qu'en fait du coup il allait par exemple placer le mouvement des sans-terre et le mouvement des travailleurs et travailleuses sans toit comme des organisations terroristes. Du coup, le mouvement des sans-terre et le mouvement des travailleurs et travailleuses sans toit, c'est des organisations en fait tout simplement du mouvement social normal brésilien, qui se base sur l'occupation de terres et de logements au sein des capitales brésiliennes, qui sont pas du tout des organisations terroristes, au contraire des organisations de masse, qui mènent des combats tout à fait pacifistes et pas du tout dans l'ordre du terrorisme, quoi. Et il a même du coup, le mec, menacé son opposant Haddad à l'élection présidentielle d'aller pourrir en prison aux côtés de Lula. Et du coup, bah, ce truc-là d'aller menacer Lula, et bah, en fait, on le retrouve du coup dans les ministres que a priori il va nommer, parce que notamment en fait il nomme son ministre de la justice, en fait c'est le juge anticorruption qui avait fait le truc, tout le mouvement anticorruption, Lava Jato, qui était contre du coup, et ben notamment en fait les manipulations qui avaient pu avoir lieu entre le PT et l'agence brésilienne de pétrole, et qui du coup avait amené à l'arrestation de Lula et à sa mise en prison, mais où du coup cette campagne était certes contre la corruption, mais contre la corruption d'un seul bord, en fait, finalement que la corruption du PT et pas la corruption de tous les autres ministres. ministre et député et homme politique brésilien qui était tout aussi corrompu que peut-être les personnes du PT. En plus, dans son gouvernement, il y a aussi, du coup, comme vice-président, un ancien général plutôt partisan de la dictature et comme ministre des Finances et un ultra-libéral complètement foufou qui, du coup, ben, depuis, là, depuis l'élection, la bourse de... Mais je crois que c'est ce qu'il a dit juste avant dans le... Du coup, a priori, quoi, là, la bourse, pardon, vous me perdez, la bourse de Rio a fait un bond de 20% quoi, en 5 jours, quoi, vraiment comme si, du coup, bah, c'est vraiment, vraiment, vraiment le président du capital et le président des riches et le président de la criminalisation du mouvement social. Mais pour autant, eh ben, à peine 2 jours après cette élection, et 2 mois du coup, bah, parce qu'en fait lui il est élu actuellement mais il va prendre son poste que le 1er janvier, il y a des dizaines de milliers de manifestants et de manifestantes qui étaient déjà dans la rue ce mardi pour exprimer leur rejet, certes de Bolsonaro, mais surtout de sa politique et surtout le retour des questions sociales au sein de la vie brésilienne. Du coup, bah, à São Paulo, ils étaient une dizaine de milliers à être rassemblés pour protester contre l'élection de l'ancien militaire, mais il y avait aussi à Rio, à Porto Alegre, à Recife et à Fortaleza des rassemblements à l'initiative des organisations de gauche réunies sous le front commun qui s'appelle le Front du Peuple sans peur. Et du coup, il y avait même du coup, plein de slogans qui disaient « Nous n'avons pas peur, nous n'avons pas peur ». Et de même qu'à Rio, s'est tenue une assemblée générale de la résistance. Donc on voit bien dans quelle ambiance se passent ces manifs. Et qui sont du coup bah, soutenus par énormément de militants et militantes de gauche, de représentants LGBT, de mouvements noirs, des syndicalistes, et que beaucoup qui avaient voté pour le candidat du Parti des Travailleurs, Haddad, mais souvent sans grande condition et pour contrer en fait Bolsonaro. Et du coup, bah, à partir de là, c'est vraiment une attaque du mouvement social en général qui en vient justement à se réveiller et à venir en fait penser en fait la question de cette élection comme une attaque contre le mouvement social, mais aussi en fait le retour des questions sociales, le retour en fait de cette prise en compte en fait des classes populaires et des travailleurs et des travailleuses du Brésil qui jusque là en fait ont été complètement oubliés tant par les gouvernements certes de droite, mais aussi les gouvernements du PT qui petit à petit ont abandonné ces personnes là et du coup alors même qu'ils en étaient issus. Et du coup c'est le retour justement du mouvement des sans terre, du mouvement des sans toit et du mouvement social au sein de la vie politique brésilienne. Et du coup, bah, on leur souhaite bonne chance. On espère qu'ils vont pouvoir contrer toutes les attaques de leur gouvernement d'extrême droite qui commence à arriver. Et notamment, bah, du coup, dès mardi soir, bien entendu, sans aucune mise en garde ou sans appel à dispersion, les forces de police ont attaqué les personnes encore regroupées et les ont virées à coups de flashball et grenades lacrymogènes.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et du coup, on commence cet agenda.
Rien, pardon.
Pourquoi c'est drôle ?
Parce qu'il paraît que je dis beaucoup du coup et tu dis beaucoup du coup aussi.
Ah bah voilà.
Du coup, finalement,
on commence cet agenda avec une information atemporelle. C'est que l'Amphiz va bientôt fêter son un an, et s'apprête à passer son deuxième hiver. Du coup, on en est très très content que cette occupation dure. Du coup, vous vous souvenez, il y avait eu un incendie l'hiver dernier, mais depuis, la vie a repris. Un salon de coiffure a même ouvert ses portes. Des permanences juridiques, médicales, psychologiques et d'accès aux droits sont mises en place. L'électricité est revenue, l'eau coule à flot, des fois un peu trop, il paraît. Et voilà, actuellement, l'Amphiz abrite plus de 200 personnes, beaucoup de jeunes hommes, mais aussi des familles avec des enfants. Et du coup, pour que l'hiver se passe au mieux, il y a encore des travaux à faire. Et pas mal de plomberie, mais aussi des travaux d'ELEC et la relance de la chaudière. Donc il y a un appel qui tourne sur les réseaux militants pour amener son aide, si on a envie, à l'Amphiz. Du coup, soit en amenant du matériel, soit en venant donner des coups de main pour les travaux, soit on peut aussi financer les travaux de l'Amphiz sur le compte Hello Asso Amphiz. Je pense qu'il faut taper sur Google sur un moteur de recherche qui n'est de préférence pas Google, pardon. Hello, Asso en FIZ. Et voilà, vous pouvez financer les travaux. Et bref, vous pouvez aussi aller donner un coup d'œil, parler avec les personnes qui sont là-bas. Voilà, vous avez les détails de tout ce qui est utile à l'FIZ sur, par exemple, Rébellion.
Et ensuite, du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller à un festival toute la semaine prochaine qui s'appelle le Festival Politique Débranché. Donc du coup, qui de mieux pour en parler que les personnes qui l'organisent ? Je vais vous lire le petit communiqué qu'ils ont publié. La course folle du tout numérique envahit notre travail, nos rues, notre quotidien. Au nom du progrès, nous serions en pleine révolution. Mais à quel prix ? Vers quel sens ? Au profit de qui et pour quel progrès au juste ? Les Décablés vous proposent durant la semaine du 5 au 11 novembre de se décabler avant de péter un câble. En parallèle, sont prévus chaque jour divers événements pour recréer des moments de débat et d'information autour de ces technologies. Conférences, rencontres, ateliers pratiques, théâtre, poésie. Et tout ça, ça a lieu dans le 7e arrondissement de Lyon. En gros, un festival pour prendre le temps de réfléchir à notre rapport aux technologies. Et donc du coup, je vous propose d'aller regarder sur internet, si vous tapez festival semaine les décablés, vous trouverez toutes les informations. Mais en tout cas, ça commence dès lundi avec une conférence sur l'impact des écrans et un débat sur l'école numérique. Voilà, ça c'est pour le lancement et pour la suite du programme, je vous laisse aller regarder sur internet.
Et alors, réfléchir c'est bien, écrire c'est bien aussi, lundi toujours, lundi 5 novembre, du Grabuge chez TCL. Alors, on t'invite, alors pas tellement le Canu Info du vendredi, mais Grabuge t'invite à prendre part à un projet d'écriture sur les transports en commun lyonnais. La première rencontre est donc prévue ce lundi 5 novembre à 19h au Cédrats. Mais alors, qu'est-ce que c'est Grabuge ? Grabuge, c'est un nouveau collectif d'écriture dont l'objectif est de produire des contenus à destination des médias libres locaux lyonnais. On peut par exemple citer rebellion.info et bien sûr votre canu info préféré, celui du vendredi. L'objectif est également de créer un fanzine. Alors, Grabuge, je pense qu'il est important de proposer des analyses et expressions révolutionnaires sur la vie politique et sociale locale, mais pointe qu'il est difficile d'écrire dans son coin, seul, face à une feuille ou un écran, et que c'est plus rigolo d'apprendre à le faire à plusieurs. Et donc, pour le premier dossier de Grabuge, l'idée est de travailler sur les transports en commun lyonnais, parce que tout le monde déteste TCL, ses tarifs délirants, sa lutte contre la solidarité entre voyageurs et voyageuses, sa non-accessibilité aux Andis, ses contrôleurs violents, ses wagons bardés de pubs, ses diffuseurs d'odeurs. Bref, on a toutes et tous une anecdote ou une longue histoire à raconter sur TCL. Donc, rendez-vous au Cédrats, lundi 5 novembre à 19h.
Oui, mais du coup, une fois que le lundi t'as fait ça, t'as qu'à aller le jeudi 8 novembre à l'atelier des canulars pour regarder un film toujours dans le cadre de la semaine décablée. Un film qui ça va s'appeler Mouton 2.0, et je te le donne en mille. Ça parle de quoi ? Ça parle des moutons et surtout en fait des puces RFID qu'on leur met dans les oreilles. Et tout ça, ça parle de quoi ? Ça parle de la fin d'un monde, de la fin de la paysannerie à partir de la parole de celles et ceux qui en font partie, donc des éleveurs, des éleveuses, des bergers et des bergères. À l'écoute de celles et ceux-ci, à travers le regard, nous ouvrons les yeux sur le danger d'une société industrielle et frénétique dans le cadre de cette semaine décablée à l'atelier des canulars jeudi prochain.
Oui, mais pas du tout, parce que jeudi prochain, tu peux aussi.
Oui.
Non, c'est pas du tout, mais aussi. Ah, tu peux, ou plutôt, ou si tu as plutôt envie de faire ça, aller à la rencontre qui est organisée à l'Amicale 31 rue Sébastien Griffe du groupe Soin. Donc c'est jeudi 8 novembre, et jeudi 8 novembre, ça sera sur le groupe Soin se réunit sur les questions du système digestif et des viscères. Est-ce que j'ai le temps d'expliquer rapidement ce que c'est que le groupe Soin, vite fait ? Ouais, tout petit peu. C'est un groupe donc qui veut...
Il y a une super brochure si jamais.
Voilà, il y a une super brochure qui est sortie cette semaine, et c'est un groupe qui veut penser collectivement les questions liées à nos manières d'être malades et en bonne santé, et s'autonomiser dans nos pratiques de soins personnels et collectives en partageant expérience, savoir et compétences. Là c'est court, je peux faire plus long, mais je crois que vous pourrez retrouver ces infos sur les internets.
Alors ouais, je dis juste très très rapidement que vendredi 9 novembre, c'est le Canu Info du vendredi à 19h, mais à 20h, il y aura aussi une rencontre débat à la Griffe autour de Sécurité Maximale, qui est le livre de Paul Malo. Il sera présent, qui est un livre qui parle, d'après l'expérience de son auteur, des prisons de haute sécurité au Québec. C'est vendredi prochain.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Comment le Canu Info du vendredi, du coup, c'est encore la question de cet ACAB. Cet ACAB, cette semaine, ça veut dire agenda chargé au Brésil. Et alors, le Canu Info du vendredi pour ce soir, c'est terminé. La prochaine, c'est vendredi prochain. Comme d'habitude, on retrouve tout sur le blog des Canu Info, sur le nouveau site de Radio Canu. Il est beau, le nouveau site de Radio Canu. Et tout de suite, c'est Noise Pollution.